L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un pays que nous avons un peu visité, mais sans trop. Et avec l'invité d'aujourd'hui, nous allons aller au Bénin. Alors au Bénin, je vais y aller malheureusement sans ma complice Guylaine, qui est prise pour cette émission. Mais elle sera de tout cœur avec nous, en tout cas, elle sera présente dans ma pensée. Et donc je reçois aujourd'hui particulièrement Monsieur Adam Idrissou, qui est griot, conteur africain. Alors, quand on sait qui sont les griots, c'est véhicule, ceux qui véhiculent l'histoire, la gloire, l'actualité. Enfin, c'est des grands. Ils ont un rôle très important à jouer dans leur pays et dans leur continent. Et donc, je suis ravie aujourd'hui, Adam, de te recevoir dans cette émission.
Merci Marie-Claude, merci à nos ancêtres qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui et voilà. De pouvoir parler des valeurs de notre chère Afrique. Justement, moi c'est Adam Idrissou, griot conteur africain, parce que pour moi, je suis en quelque sorte l'assemblage de l'Afrique. Donc voilà.
Voilà, c'est vrai que c'est un résumé quand même, grâce à qui, puisque bon, l'histoire écrite de l'Afrique, il y en a, mais il n'y en a pas énormément d'histoire écrite. Par contre, l'oralité, on sait combien c'est développé sur ce continent, et du coup, on sait combien on peut comprendre l'importance des griots. Voilà, je dirais que Adam vient de nous parler effectivement de nos ancêtres. Je pense qu'il ne se privera pas de nous en parler tout au long de cette émission. Et puis je tiens à rappeler aussi que quand même le Bénin, c'est aussi le pays du vaudou.
Justement.
Voilà, et en sachant, je pense que nous en parlerons aussi tout à l'heure, Adam, en sachant que le vaudou, ce n'est pas simplement cette sorcellerie horrible, que c'est vraiment toute une culture avec une tradition, y compris une tradition de soins. Donc je pense qu'on y viendra ultérieurement. Alors Adam, puisqu'on débute l'émission, j'ai coutume de demander à nos invités, ou nous avons coutume de demander à nos invités un petit peu leur histoire, c'est-à-dire comment on peut venir du Bénin, par exemple, et se retrouver à Montpellier un beau jour, voilà. Donc, je suis tout oui.
D'accord. Bon, déjà, Adam Idrissou, originaire du Bénin. Donc, je suis né au Bénin, précisément au nord du Bénin. Mm-hmm. Je suis de Parakou, la ville, troisième ville à statut particulier quand même, de Parakou, qui est connue comme la cité des Koburu. Quand je dis Koburu, en fait, c'est comme dans tous les pays, il y a quand même une région où des gens savent aller à cheval. Donc moi, d'accord, je suis né dans cette dynastie-là, dans ce groupe d'ethnies. Mm-hmm. Et du côté de maman, je suis de Kouandé, du Haut-Nord, complètement. Donc je suis prince de ce côté, prince de la reine Somba, Manso Tigui. Donc, qui est la reine du Septentrion, du nord du Bénin. Et du côté de mon père, je suis de la Donga, qui est donc le département où j'hérite en quelque sorte la tradition orale de mon grand-père, où je suis griot. Et donc, du côté de maman aussi, maman est la reine qui travaille un peu dans tout ce qui est tradition, donc la médecine traditionnelle, le fétichisme, tout ça. Donc on a parlé de soins, de santé, tout ça, et ça me rappelle justement ma licence, parce que j'ai travaillé pour ma recherche en licence de sociologie et d'anthropologie. Je m'étais intéressé un peu à ce qu'elle faisait dans la commune de Ndali, où j'ai travaillé sur l'organisation des praticiens et leur collaboration avec notre médecine classique. Donc on voit un peu que c'est quelqu'un qui, Adam, que vous avez aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaie de faire le lien entre ce que ses ancêtres ont laissé et ce qu'aujourd'hui notre vie actuelle apporte comme transformation. Et donc nous, notre objectif en tant que griot, c'est de rappeler à la population ce que certains ont oublié et de maîtriser toutes nos connaissances, nos savoir-faire pour d'autres générations et pouvoir toujours les transmettre, donner la joie, surtout la joie, parce que la France en a besoin depuis le Covid. Et actuellement, avec la guerre en Ukraine, tout ça, c'est important de rappeler cette vie-là que nous avons. Et en Afrique, c'est vraiment notre chance, cette tradition orale dont tu parlais au début. C'est vraiment notre clé de l'enseignement. Nos ancêtres l'ont utilisé pour transmettre des messages qui aujourd'hui sont, arrivent à pousser beaucoup d'Africains à aller plus loin, à forcer. Même dans les études, on les voit. On voit beaucoup des enseignements d'Afrique qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas référencés, qui n'ont pas de données empiriques, mais qui aujourd'hui font référence de la science ou quoi.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même toute une recherche au niveau justement de cette histoire qui est tellement ancienne, puisqu'on dit aussi que quand même l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et on se rend compte, en fait, on ne fait que redécouvrir souvent. Par exemple, l'autre jour, je lisais un article sur une reine, je ne sais plus de quel pays c'était, qui elle-même avait fait écrire une motion des droits de l'homme. Enfin, on se rend compte qu'en fait, on ne fait que redécouvrir. On s'était arrêté un peu aux Égyptiens, sûrement, dans nos histoires à nous. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a l'histoire ancienne. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a des jeunes, parce que, Adam, vous ne pouvez pas le voir, mais il est jeune, ça se voit. D'ailleurs, je crois que tu fais encore des études universitaires.
Oui,
encore,
oui, hein. C'est même d'ailleurs ce qui m'a amené à Montpellier. Voilà. Je voulais faire le lien. D'abord, je ne suis pas arrivé à Montpellier tout à l'heure. Je suis arrivé à Montpellier l'année dernière quand j'ai intégré un master d'études du développement à Paul Valéry III. Mais bien avant, je suis arrivé en France en 2019, après donc, ma licence en socio-anthropo. Oui. J'ai donc décidé de poursuivre mes études en France. Mon rêve a toujours été en fait, de découvrir une autre culture et pouvoir mieux transmettre ma culture. Parce que pour moi, comparer une nouvelle culture, c'est arriver à faire le lien et à faire comprendre les gens.
D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'actuellement, dans le monde occidental, je pense qu'il y a de plus en plus, y compris de jeunes, qui se rendent compte quand même que c'est important de savoir d'où on vient. Donc, comme on dit, un adage africain bien connu. Et je pense que justement, cette discipline, l'histoire et même la sociologie qui se repenche sur l'histoire, c'est important. Et c'est extraordinaire de se rendre compte qu'il y a des jeunes en Afrique qui justement ont gardé cette conscience-là, c'est-à-dire qu'eux sont restés inscrits dans les traditions, justement, qui maintenant, effectivement, comme je disais tout à l'heure, s'enrichit de toutes les techniques plus modernes, etc., puisque l'Afrique, elle est comme le monde entier, hein, elle se modernise, voilà. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des jeunes qui, finalement, n'ont qu'à tirer le filet en restant reliés, alors que nous, souvent, on est obligés de revenir aux origines, de se relier d'une autre façon. Donc voilà, c'est intéressant. Et donc là, nous avons finalement un prince. Je ne savais pas, votre altresse.
Oui, 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 ça c'est sûr.
Ça, je l'ignorais. C'est pas pour ça que je l'ai invité, d'ailleurs. Je jure. Mais voilà, un prince et puis qui rappelle ses traditions. Et la tradition du cheval, ça me rappelle effectivement le Burkina avec les Amazones et puis qui est quand même aussi chez les Mossi, chez l'ethnie dominante.
Oui, chez les Mossi.
C'était très très important. Hein, le cheval, etc. Ah oui, et je vois que le symbole du cheval, qui était chez nous aussi un symbole de chevalerie, ça s'appelait comme ça aussi, c'était noble. Je me rends compte qu'en fait, voilà, dans le monde entier, le cheval joue un rôle et a une aura un petit peu de noblesse et
d'élévation. Déjà, toutes les familles qui avaient de chevaux déjà à l'époque, c'était considéré comme les nantis, qui avaient plus de notoriété. C'était eux, c'était pas mieux. On retrouvait des rois, ceux qui avaient des postes, des grades au-dessus des autres, qui pouvaient diriger la commune, tout ça, parce que la structure en fait que nous avons aujourd'hui, qui est administrative, existait, mais sous forme traditionnelle.
Oui,
donc avant, il y avait des chefs, le chef du village, après ses conseillers, tout ça. Et la plupart, c'était des gens qui étaient quand même issus des familles des Bartonou, par exemple au nord du Bénin. Et au sud, c'était pareil. Et donc, ça me pousse à parler de ce que beaucoup ignorent souvent, parce qu'en fait, on dit, on se résume tous à la colonisation, à tout ce qui a existé. On dit que l'Occident a bouffé l'Afrique, tout ça. Je suis d'accord. mais quand même qu'on rappelle qu'il y avait déjà des rivalités hégémoniales qui existaient entre ces ethnies-là, ces communautés. Il y avait déjà cette façon aussi de pouvoir échanger des services avec des coris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'argent. Mmh. C'était des coris, des esclaves, des coquillages aussi. Mmh. Voilà, c'est une forme de coquillage qui était utilisée comme monnaie à l'époque. Mmh. Et donc, quand je pense à comment le Bénin est, le Bénin, par exemple, moi, en tant que griot, j'ai eu cette chance de pouvoir parler plusieurs dialectes de mon pays. Donc, ça m'a permis un peu de voyager déjà au Bénin. Et moi, le voyage, ça m'enrichit, ça m'apporte beaucoup de connaissances. Donc, je ne peux jamais me priver de me déplacer. Et les griots voyageaient déjà à l'époque. Donc, les Oyo qui sont arrivés du Nigeria, les Minan qui sont arrivés du Togo, les Mossi qui sont arrivés du Haut-Nord. Et en fait, finalement, c'est le Bénin né de la migration des pays voisins. Ce qui fait du Bénin, en fait, un centre de culture, un peu comme la Belgique, quoi. Multiculturel, que le commerce, ce qui facilite le commerce aussi entre les pays voisins, ce qui facilite aussi les échanges. Moi, par exemple, si je pars au Niger, il suffit juste que je change mon accent et que je puisse me faire comprendre par le Nigérien.
Ah oui.
Il faut que je parte, si je vais au Nigeria, il faut que je transforme le dialecte savé, qui est le dialecte du centre du Bénin, qui n'est pas loin donc, du Nigeria. Il faut juste que je change l'accent et j'utilise l'accent du Nigeria, des Oyo, et que je sois bien compris au Nigeria. Donc ça, c'est le Yoruba. Et le Yoruba dérive et qui a permis en fait à des Béninois qui se sont déplacés vers ces pays-là et eux-mêmes qui sont venus faire des échanges, parce que les échanges se faisaient, c'est comme comment Marseille est née, quoi. Marseille, c'était quand même les Grecs qui venaient et qui ont eu la chance de convaincre un roi qui leur a dit, bon, aujourd'hui, si vous voulez vous installer, puisque nous faisons des affaires. Et c'était comme ça aussi à l'époque.
Tout à fait. C'est bien la comparaison. Alors, nous avons fait venir un griot, donc c'est normal que nous ayons déjà une petite leçon d'histoire. Et c'est vrai que pour être plus peut-être prosaïque, plus terre à terre, je dirais que j'ai quand même toujours été, depuis ces 27 ans où je vais là-bas, où je vais au Burkina, entre autres, en Afrique de l'Ouest, j'ai toujours été frappée de la mobilité des populations. Et ça, voilà, là, on vient de nous le rappeler, c'est-à-dire que il y a quand même, on pense à l'Afrique, on pense voilà au village, etc., à la brousse, etc. Mais en fait, c'était extraordinaire la mobilité des gens. Que ce soit pour des raisons aussi économiques, soit au niveau commerce ou au contraire chercher du travail, etc. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus carrefour que d'autres, et donc le Bénin fait partie de ces pays un peu carrefour, de par peut-être la géographie, de par peut-être les richesses, l'économie, etc., etc. Donc j'ai appris des choses aujourd'hui encore, c'est bien, merci Adam.
Voilà. Et moi aussi, merci aussi, parce que bon, c'est ce qu'il faut, ce brassage et ce partage de connaissances. Moi j'adore plus ceux qui sont ici et qui aiment l'Afrique. Et quand je pense au nom de notre émission, l'Afrique quand même dans tous ses états, moi ça m'ouvre l'esprit aussi, ça m'oriente vers le fait qu'on dise que les gens s'intéressent à l'Afrique, mais l'Afrique en profondeur, l'Afrique qu'on peut toucher des doigts.
Voilà, pas l'Afrique pas, des échebas,
voilà, des pas clichés. C'est ça, des clichés, des photos, de famine, de tout. Moi, je dis souvent, parce que je suis quand même, j'ai fait une formation à Nîmes, en BTS tourisme. Où mon idée première, en fait, quand je suis arrivé en France, c'était donc de prévenir quelque chose qui est en train de prendre forme actuellement, et j'ai peur que les choses ne se passent pas bien. Si je m'intéresse à mes recherches au Sénégal et au Bénin, c'est parce que pour moi, la colonisation a laissé des séquelles. Et la colonisation a laissé des bonnes choses aussi, a laissé de mauvaises choses. Nous avons pris conscience. Certains ont pris conscience, ils ont pardonné la colonisation, tout ça. Et il est temps qu'on pardonne, parce que certains sont ici, ils ont compris comme nous. Et ils viennent en Afrique. Quand je prends ton exemple, tu es resté plus de 27 ans, une trentaine d'années en Afrique, à faire des allers-retours. tu nous as beaucoup apporté, on t'a apporté aussi.
Ah oui, énormément.
Et ça,
je confirme.
Personne ne pourrait te l'arracher.
Bien sûr.
Et le jour où tu as décidé cela, c'est toi-même face à ta conscience. Tu es parti, tu es resté, tu as appris des choses. Et ce qui est fou, c'est que ce continent a beaucoup à nous apprendre parce que quand moi-même j'y vais, c'est mon lieu de repère.
Tout à fait.
C'est vrai, je suis ici, je suis résident, je fais mes études, je monte tout ici. Mais mon repère, c'est là-bas. C'est ma source d'inspiration. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait une formation en tourisme, justement, pour conserver notre culture. Permettre aux gens de découvrir cette culture authentique. Voyager autrement. Donc, voyager au milieu des populations locales, éviter le milieu urbain, éviter les hôtels de luxe et aller vivre dans les familles. Permettre à une personne qui vous accueille de vous raconter son mode de vie, de vous amener au puits, aller puiser de l'eau avec une puisette et non appuyer sur un bouton et avoir de l'eau ou peut-être ouvrir un robinet.
Tout à fait.
Donc, cette formation en BTS Tourisme m'a permis déjà de faire un premier bilan, de mieux gérer mon intégration en France. Et je suis arrivé directement en études de développement, en master. Et ça, c'était le point, le bilan, en quelque sorte, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut commencer par faire d'ici. Et donc, en BTS, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association Bénin Solidaire Sans Frontières. Parce que pour moi, j'ai été surpris de voir des gens qui adorent l'Afrique et qui veulent faire des choses. Des gens engagés comme toi, Marie-Claude, qui avaient envie de découvrir et de partir de l'exemple de ceux qui sont partis pour faire des choses. Donc, on est plutôt sur une autre forme de développement qui part de l'amour pour la culture de l'autre et ce qu'on peut faire ensemble. Donc, on a ce projet parti de là. Je bossais sur ça en parallèle de mes études et ça a bien pris.
Oui, ça prend. C'est sûr, et c'est sûr que la région, en plus, est très demandeuse. Il y a énormément de gens qui sont demandeurs. La mairie de Montpellier a initié justement tout un partenariat avec les associations africaines, etc. Et je voudrais confirmer qu'effectivement, alors moi, j'ai eu la chance. Bon, c'est une chance, et puis c'est peut-être aussi ma façon d'être, d'arriver dans un pays et tout de suite d'être intégré, de ne pas avoir besoin de chercher, justement. Mais je confirme que ce tourisme solidaire qui se développe, dont tu viens de parler, c'est un tourisme qui a de plus en plus de succès, parce que justement, les gens en ont marre aussi, justement, de ces clichés, de ces façons, de ces safaris, machin, où, voilà, on vous emmène tous les jours, vous allez visiter. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'effectivement, j'encourage tout le monde à faire, pour justement avoir une autre approche, une autre idée, et puis cet enrichissement que nous avons. Sinon, on ne l'a pas. Sinon, on reste la posture de celui qui a l'argent, qui vient visiter, hein, comme dit l'autre, le blanc, là, tu as l'argent. Voilà. On reste dans cette posture-là, et du coup, on ne s'interpénètre pas de toutes ces sensations et tout ce qui fait aussi la richesse. Hein, puiser de l'eau dans un puits, voilà, dans un village au milieu de toutes les femmes qui puissent. Enfin, c'est quand même autre chose que d'aller prendre des clichés, des photos,
choses qui n'existent pas, des photos que des ONG mettent en valeur juste pour avoir des fonds et après envoyer à ceux qui sont sur place et qui, eux, se remplissent les poches, qui ne font pas les réelles actions.
D'ailleurs, ça m'est arrivé au début, après, si je le savais, mais ça m'est arrivé quelquefois que des gens, parce que j'adore photographier les personnages, et que des fois, on me disait non, on ne veut pas. Et parce qu'on me disait que j'allais
vendre
les gens, carrément, j'allais vendre ça. Alors que,
bon, les vendre, oui.
Et c'est vrai que de toute façon, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et que chaque fois que j'ai pris des photos dans des pays justement où il n'y avait pas trop, j'ai toujours eu le coutume d'envoyer la photo à la personne concernée.
Et ça, c'est une très bonne idée.
Voilà,
parlant justement de photos, ça me fait penser à ce truc que je ne cesse de dire, d'expliquer à ceux avec qui je pars souvent en voyage, parce que moi, mon objectif, justement, c'est de faire partie des gens, les amener, leur expliquer ce qu'il y a à faire, et ensemble, qu'ils se laissent emporter par le voyage, qu'ils ne m'imposent pas des choses, mais qu'ils me suivent, et s'ils ont des questions, qu'ils me les posent, et qu'ensemble, on trouve des solutions. Et donc, c'est toute une métamorphose, quoi, parce que là, je suis parti avec deux membre adhérent de l'association et la cofondatrice et secrétaire Sophie Lajoie. On a passé un séjour de 2 semaines, 3 jours, mais c'était extraordinaire. À la fin, cerise sur le gâteau, je les amène quand même à Grand Popo, où il fait calme, il y a la mer à côté. Ils disent, mais nous, on n'a plus envie de partir.
Le retour, c'était la tristesse, quoi. On le lisait sous les yeux, parce qu'on a mangé dans des familles. Moi, ma famille aussi était proche. On a été dans des villages où on a mené des projets. Ils ont vu ce qui se fait. Ils ont appris des choses, sans même qu'on ne leur dise. Ils ont été invités par la voisine pour venir manger à la maison. Ils ont vu des enfants, des autres qui leur disaient « Yovo, yovo ». Et eux-mêmes, à leur tour, je leur ai dit « Si vous dites « Yovo, yovo », dites-le aussi « Mais oui, mais oui ». Donc, quand le Yovo est appelé Yovo, le Yovo aussi dit à l'autre, mais oui, mais oui. Et Yovo, c'est l'appellation qu'au Bénin, on appelle le blanc avec. Le Yovo, ça veut dire le blanc. Donc, quand on dit, mais oui, c'est le noir. Donc, le Yovo et le noir. Donc, là, il y a une forme de communication aussi.
Oui, c'est un échange, un vrai échange. Oui,
des codes, quoi. Et quand je parlais de photos, ça a développé dans la tête des populations locales le fait que certains prenaient des photos, ils font des reportages, des choses, et ils n'ont pas de retour, à demander de l'argent. Donc, dès que quelqu'un prend son appareil sur un habitant, l'habitant lui dit « Ah, ne me prenez pas en photo, mais si vous me prenez, vous me payez. » Parce qu'après, on voit à la télé qu'on vend les photos, des choses.
Ce qui est vrai aussi.
Ce qui est vrai parfois pour certains. Moi, je le vois, oui. Donc, c'est ça. Ça crée beaucoup de choses. Et le fait aussi d'arriver dans un village et commencer par distribuer des choses sans pour autant rassembler les populations autour d'un échange et leur dire « Ah, nous sommes des acteurs engagés dans une association. Nous avons apporté des choses. On va les confier. » au chef du quartier, en collaboration avec les conseillers. Vous allez voir qui sont les réelles personnes qui ont vraiment besoin et le fait dans les normes. Donc ça aussi, ça commence par changer les idées. Et ça, c'était des problématiques que moi, je voyais. Je me disais, ben, faudrait pas que le tourisme qui est censé développer vienne créer des dégâts.
Tout à fait. Alors, justement, par rapport à la première partie de la discussion, de ce que tu nous expliquais, il me vient l'idée, en fait, c'est pour moi, un des plus grands écrivains du voyage, c'est Nicolas Bouvier, qui était un journaliste qui a écrit, entre autres, L'usage du monde, qui est un livre extraordinaire. Et justement, Nicolas Bouvier, dans les citations que j'ai retenues de lui, disait, entre autres, on ne fait pas un voyage vous fait ou vous défait. Et qu'effectivement, si on revient d'un voyage en n'ayant rien ressenti, rien éprouvé, parce que ça peut être aussi, l'Afrique, ça peut être très éprouvant, j'ai vu ça, moi, autour de moi. Donc, on peut se dire que ce voyage-là a été stérile, qu'on a évolué dans un milieu stérile et qu'on a été complètement stérilisé au niveau des ressentis et des émotions. Voilà, ça me fait penser à ça.
Oui, oui, oui.
Et qu'effectivement, c'est bien d'avoir la chance, justement, d'avoir des gens, des vraies personnes qui ont à cœur, voilà, qui ont cette passion, comme tu peux avoir. Voilà, une passion, je dirais, une passion de griot. Une passion de griot.
Ça peut.
Alors, ça peut. Ben, en tout cas, c'est ce que tu arrives à nous renvoyer. En tout cas, c'est vraiment important.
Ouais, c'est bien que tu le soulignes, ça c'est sûr. Après aussi, il y a des gens qui vont en Afrique, mais qui veulent toujours avoir leur confort, quand même, de l'Europe. Et là, c'est compliqué.
Ah oui, mais c'est justement, c'est ça qu'il ne faut pas.
Voilà.
Ça, oui, quand on voyage, il faut savoir ça. Voilà, et c'est sûr que... Et alors, ça peut faire partie des choses qui vous défassent, effectivement.
Voilà.
Parce que ça, la nourriture, voilà, où on
la
est...
La nourriture vraiment... à l'heure.
À l'heure, voilà, tout à fait.
Il faut attendre l'entrée, le plat, oui, oui. Et le dessert qui est la sortie. Mais en réalité, en Afrique, c'est que le plat.
Que le plat. D'ailleurs, dans beaucoup de pays au monde. Hein,
oui, beaucoup de pays au monde.
Comme quoi, donc voilà, de voyager, ça peut servir aussi... Quand on va aussi en Afrique, de se rendre compte, ben oui, il y a un plat. Et puis, il y a des pays où, malheureusement, d'avoir déjà un plat, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà énorme.
Et qu'on apprécie. Et sauf que, en fait, tout se fait.
Voilà.
Et on le fait autrement.
Tout à fait.
Parce que l'entrée, c'est souvent l'apéritif du village, donc la boisson locale.
Oui, la boisson locale.
Ou le jus, qui est le jus d'orange qui est cueilli par quelqu'un. Et à la fin, voilà, après le plat consistant, le dessert qui arrive, par exemple, d'un voisin qui vous a vu manger et qui vous envoie des mangues.
Oui, tout à fait. Ou alors lors des fêtes religieuses, quelle que soit la religion, le voisin, justement, qu'il soit musulman ou chrétien, qui t'apporte à partager son plat, voilà, etc. Et c'est vrai que c'est la place de la nourriture, elle est aussi importante, elle est centrale, et culturellement, dans tous les pays, c'est vrai que quand on arrive aussi à s'imprégner de ça, on est déjà bien imprégné dans la culture. Enfin, on a déjà quelque chose qui est transporté de la culture de l'autre. Bon, voilà. Alors, par contre, je vais être un peu frustrante, Adam, mais franchement, on va négocier, on va revenir la semaine prochaine, mm-hmm. parce que là, il va falloir qu'on arrête notre émission,
oui.
même si tout était passionnant et qu'on a retenu enfin, rapidement quelqu'un, voilà, un prince, hein, avec la culture aussi du cheval, etc. Oui. Tu veux nous dire quelque chose à la fin de l'émission, toi ?
Déjà, je pense que tu as abordé un très bon sujet qui est la religion. Moi, en tant qu'anthropologue, c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, le Bénin est aussi un lieu où on peut observer le syncrétisme.
Le syncrétisme, d'accord.
Donc, ben voilà. C'est un syncrétisme qui se développe, le brassage entre cultures, le nord, le sud, et tout le monde arrive à vivre avec sa culture sans problème. Donc, tu as le musulman qui accompagne l'autre.
C'est magnifique, ça, c'est magnifique.
Et donc, voilà, moi, ce que je peux dire, c'est d'avoir des émissions pareilles.
D'accord.
De temps en temps, pour nous D'accord. amener à parler de notre chère Afrique qu'on aime
Donc,
bien.
Donc, merci Adam. On Et... va dire, on va se quitter. Je vais d'abord dire au revoir à tous nos auditeurs et leur promettre que la semaine prochaine, on continuera avec Adam, parce que vous avez compris, il est loin de tout nous avoir révélé de ce qu'il a à dire. Et puis, je pense que même, ça sera même peut-être pas suffisant. Mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je salue ma compagne de voyage qui était absente aujourd'hui. Salut Guylaine. Je remercie Stéphane à la technique et nous allons nous quitter sur un morceau de musique que donc notre invité a choisi,
oui.
qui est
la musique donc de Angélique Kidjo, qui est Batonga, qui redonne beaucoup d'énergie.
Angélique Kidjo, qui est une sacrée bonne femme,
sacrée
avec une
diva,
voix.
Ouais, ouais, ouais. La référente en quelque sorte de la
fait.
Musique béninoise partout dans le monde. Elle inspire beaucoup de femmes africaines, elle lutte beaucoup avec l'UNICEF en Afrique, partout. Et là, actuellement, elle a fait une tournée récente là, au Bénin.
Ouais, au Bénin.
Donc,
ouais.
c'est quand même bien qu'on l'écoute. Quoi.
Tout à fait. Voilà, donc à bientôt sur FM+, pour l'Afrique dans tous ses états, toujours sur le 91.fm. Au revoir.
aller avec